Voilà, bienvenue à tous. L'autre jour, dans un des groupes de maison, quelqu'un a posé la question « Pourquoi est-ce que nous avons tant de traductions différentes de la Bible ?» Saignez les reins de votre entendement. Saignez du verbe cindre. Tenez-vous prêt pour le service, dit la Français courant. Ces deux textes n'ont, on le voit, aucun mot en commun, et pourtant ils disent exactement la même chose. Le premier était directement compréhensible aux Juifs de l'époque de Jésus, et le second est directement compréhensible à nos oreilles d'aujourd'hui. Il reste la question de la traduction. Quelle est la meilleure traduction ? Celle qui est proche de l'original, mais que l'on ne comprend pas, ou bien celle qui s'éloigne du texte pour nous transmettre seulement l'idée. Nous avons là l'une des raisons d'être de toutes les traductions. Certaines traductions, comme la Darby, optent pour la littérale. D'autres préfèrent la fidélité au sens. C'est le cas de la Bible en français courant. Autre exemple, difficile, vraiment très très difficile, de garder l'original hébreu. Le nez de Dieu brûle. Avouez avec moi que dire « Dieu se met en colère » est beaucoup plus compréhensible. L'hébreu dit « le nez de Dieu s'allonge ». On préfère traduire par « Dieu est patient ». Dieu a les intestins tout remués. C'est pas très poétique. Donc on préfère traduire « Dieu fut ému de compassion ». On a des expressions qui ont le même sens parce que nous avons plus de 50 000 mots courants en français alors qu'en hébreu, il y en a un peu moins de 6 000. Je vous propose, l'espace de quelques secondes, de quitter la Bible pour mieux comprendre ce qu'est une traduction. Tout le monde connaît les œuvres de Shakespeare. Son œuvre complète est retraduite en français à peu près tous les 10 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque traducteur est un écrivain. Et il espère trouver, plus souvent que ses prédécesseurs, le mot qui collera exactement à la situation. Le génie propre à chaque langue, qui est une description de la flamme dans les pays nordiques, est beaucoup plus riche en français. Depuis la braise qui rougeoie jusqu'à la flamme vive, toute une graduation qui décrit en anglais et en allemand qui peuvent se décrire par beaucoup de mots. En français, nous en avons que quelques-uns, et qui sont vraiment très pauvres. Nous avons aussi des génies de l'expression. Par exemple, en anglais, « il a nagé à travers la Manche ». Il a traversé la Manche à la nage. La complication vient du fait que très souvent, les mots n'ont pas qu'un seul mot. Exemple. Je parle des prunes. Et un enfant demande « Dis-moi, papa, pourquoi les prunes noires sont rouges ?» Réponse « Parce qu'elles sont vertes. » C'est une phrase impossible à traduire dans une multitude de langues. Sauf sans tomber dans la planitude, les fruits ne sont pas mûrs. Et puis il y a les prouesses. Par exemple, le psaume 119 est une prouesse littéraire qui n'a jamais été égalée. Pourquoi ? Parce que le psaume 119 comprend 22 strophes qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Il y a 8 versets dans chaque strophe. Et chaque verset commence par la lettre Aleph, c'est-à-dire le A. Chaque verbe de la deuxième commence par le Bet, qui est l'équivalent du B, etc., etc., jusqu'à la fin de l'alphabet. Nous trouvons dans ce psaume 8 mots différents pour désigner la loi. Et ces mots se retrouvent dans chaque strophe, tout en respectant les règles de la versification. Et vous comprenez pourquoi ce texte est en prose dans nos Bibles. Je ne parle pas ici, parce que ça complique encore bien la chose, du niveau de la traduction. Exemple. Jésus dit à Pierre, paie mes brebis, ce qui est égal à prends soin de mes brebis. Aujourd'hui, le verbe paître est utilisé dans une formule un peu désobligeante qu'on pourrait utiliser pour résumer le texte de Jean. Jésus a envoyé Pierre se faire paître. Et ce n'est pas du tout ce que Jésus a fait. Alors, comment peut-on passer de saigner les reins de votre entendement à affermissez votre pensée ou tenez-vous prêt pour le service? Le service est multiple et depuis l'adoration de Dieu jusqu'au souci pour le prochain, en passant par le témoignage. Le témoignage est souvent une réponse inspirée à une situation de la vie quotidienne qui fait réfléchir d'autres interlocuteurs. Il faut reconnaître que Jésus place ses disciples, et donc chacun de nous, devant des missions parfois impossibles à vie humaine. Et devant chaque mission, devant chaque ordre que Dieu nous donne, nous ne devrions pas trembler. Dès que nous nous posons la question de faire la volonté de Dieu, il nous arrive très souvent de douter. Parce que nous croyons que Dieu est incapable de faire ce qu'il nous demande de faire. Et c'est vrai dans un sens que nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu, tant que nous mesurons nos propres forces, nous sommes incapables. Et du coup, nous préférons souvent ne rien faire, et du coup, puisque nous ne faisons rien, nous tombons dans la désobéissance. C'est pourquoi il nous faut affermir notre pensée, c'est-à-dire cesser de compter sur nos munitions, ces munitions que nous croyons posséder. Alors que si nous sommes esclaves de Jésus, nous ne possédons pas d'autres armes que les siennes. Et croyez-moi, la différence, elle est énorme. parce que nos capacités à nous sont limitées, tandis que les capacités de Dieu sont illimitées. Par conséquent, affermir notre pensée, c'est comprendre de tout notre être que nous n'avons rien à chercher dans nos propres forces, mais seulement à compter sur les promesses, sur les commandements de Dieu, sur son secours, sur sa fidélité. Et c'est la raison pour laquelle l'Ancien Testament dit et souligne « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. » Nous n'avons donc pas besoin de nous faire du souci pour nos incapacités. Nous n'avons donc pas de souci à nous faire pour notre réussite. Il suffit pour cela de nous rendre esclaves du Saint-Esprit. Nous savons que nous n'avons plus aucun droit sur nous-mêmes. Nous n'avons plus qu'à nous considérer comme l'instrument par lequel Dieu veut agir. Du moment que le Seigneur doit être notre maître, nous ne pouvons pas être notre propre maître. Et nous n'avons aucun droit à faire valoir. Vous connaissez cette parabole de l'esclave. Vous connaissez ce texte où l'homme naturel dit « Mais que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Dieu dit qu'il prend soin de nous. Affermir notre pensée, c'est nous pénétrer de l'idée que nous ne sommes rien, tout en étant tout. Esclaves, sans aucun droit, mais outils entre les mains de Dieu. Soumis à la volonté de Dieu. Donc obligés malgré nous de faire la volonté de Dieu. Jésus nous enlève toute prétention pour deux raisons. Premièrement, parce que nous sommes esclaves, et ensuite, parce que nous sommes incapables, par nos propres forces, d'accomplir la volonté de Dieu. Conclusion de Jésus. Quand vous aurez fait tout ce que je vous aurai dit de faire, vous devez penser, je suis un serviteur inutile. Alors j'ai insisté sur le inutile, parce qu'à mon avis, il est mal placé, c'est pas ce que le grec dit. Le mot grec ne dit pas inutile, mais esclave, ce qui est différent. Nous ne sommes pas inutiles, parce que nous aurons fait la volonté de Dieu. Donc nous ne sommes pas inutiles. En fait, l'image la plus percutante aujourd'hui, et je terminerai avec cela, c'est celle de l'outil. Si pour affermir notre pensée, nous nous persuadons de n'être que des outils d'une part, nous ne serons pas inutiles. Puisque l'outil, il est utile. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que outil et utile sont tous deux formés du même mot. Et d'autre part, nous comprenons mieux que pour que l'outil soit utile, il faut qu'il y ait une main qui s'en saisisse et qu'il l'utilise. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'image devient claire. En entre les mains de Dieu, nous pouvons servir à accomplir la volonté de Dieu et non la nôtre. Et c'est là, frères et sœurs, qu'intervient la ceinture. Alors ça, c'est un geste, pour ceux qui ne me connaissent pas, que vous me verrez faire très souvent. C'est là qu'intervient, disais-je, la ceinture, qui est un mot de la même famille que ceindre. Dans le langage biblique, la ceinture est avant tout l'instrument indispensable pour accomplir un travail. Car à l'époque, on portait un vêtement de dessus qui était très ample et qui allait du cou jusqu'aux pieds. De sorte que pour accomplir le moindre travail, il fallait remonter ce vêtement et le faire tenir à la taille